Joëlle Mergui, présidente du Consistoire de Paris Île-de-France, est à votre micro. Laurence Goldman, bonjour.
Bonjour Elsa, bonjour Joëlle Mergui.
Bonjour, bonjour Elsa, bonjour Laurence.
Vous avez, le 26 juin dernier, à l'Hôtel de Ville de Paris, présidé la soirée de gala du Consistoire de Paris. Et vous avez, à l'instar de Yonatan Arfi, quelques jours plus tard, lors du dîner du CRI, vous avez fait part de l'inquiétude profonde des Français de confession juive face à l'antisémitisme. Une inquiétude que vous avez dit partagée. Sur quoi porte précisément cette inquiétude, à vos yeux, Joëlle Mergui?
Oui, donc c'était une belle soirée. Je ne voulais pas, j'ai dit je ne vais pas parler de tout ça, mais j'en ai quand même un petit peu parlé.
Oui. Parce que vous avez listé soirée, d'ailleurs
tous les sujets pour les passer et pour faire une soirée plutôt positive sur l'avenir de la communauté. Mais ceci étant, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, des interviews avec vous et avec les autres interviews, on fait part de nos inquiétudes, on rassemble les inquiétudes de la communauté. Elles sont simples, hein. Il y a un antisémitisme qui augmente, un antisionisme qui est de plus en plus décomplexé, des élus, des hommes politiques, des intellectuels, des étudiants, des jeunes, toutes les catégories et qui vilipendent Israël et en même temps la communauté juive. Donc il y a des raisons effectivement de s'inquiéter, mais parallèlement, on voit une communauté juive active, engagée, présente, heureuse dans les événements familiaux, dans les événements communautaires. Donc je crois qu'il y a ce paradoxe dans lequel nous vivons maintenant depuis des années. Je pense que c'est un paradoxe dans lequel vit la communauté juive depuis ses origines. C'est de se dire, il y a l'inquiétude du moment, il y a l'inquiétude de l'endroit où on est, il y a l'inquiétude de voir que dans le monde entier, il n'y a plus de place dans le monde où il n'y a pas d'antisémitisme. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est préoccupant, surtout quand on est responsable communautaire, qu'on est amené à devoir commenter des choses qui sont très compliquées à commenter, parce que qui peut prévoir véritablement l'avenir, de voir que l'islamisme est en train de s'installer progressivement. Il paraît combattu d'un côté, et par ailleurs on a des tolérances d'un autre. Donc c'est tout ce climat qui provoque une inquiétude de la communauté, et qu'on palpe chez des parents, qu'on palpe chez des enfants, qu'on palpe chez des jeunes, qu'on palpe chez des personnes plus âgées qui s'interrogent sur leur avenir.
Quelle remontée justement vous avez du terrain, des fidèles qui fréquentent les lieux juifs? Les chiffres de l'antisémitisme sont toujours très élevés, mais toutefois on note une baisse, hein, sur les 6 derniers mois, de janvier à juin 2025. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressenti aujourd'hui par les membres des communautés juives de Paris et d'Île-de-France?
Je crois qu'il y a deux choses, hein. L'inquiétude, elle est là. On en parle, tout le monde en parle. L'inquiétude, l'exploration de ce qui se passe à la télévision, de ce qui se passe dans les médias, des déclarations politiques, surtout quand elles concernent Israël. Et parallèlement, je vais le dire, j'ai pas envie qu'on s'habitue à l'antisémitisme. Parallèlement, on a appris à nager avec, hein. C'est comme quand on apprend à nager, on vit avec, on sait qu'il y a de l'antisémitisme, on prend dans certains quartiers quelques précautions, certains n'en prennent pas, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir malheureusement des agressions. Vous rappelez le rabbin d'Orléans qui disait je savais pas quand ça allait m'arriver. Et donc il y a comme une... quand je me promène dans la rue avec ma kippa, je pense plus aujourd'hui qu'au risque d'être agressé que je ne le pensais il y a 10 ans. Donc il y a cette inquiétude qui est là. Mais je crois que, et c'est la force que nous a donnée Israël, la force de résilience d'Israël qui est extraordinaire, je la vis tous les soirs. Hier soir, il y avait le Rav Pinto au CEJ, il y avait 2000 personnes qui étaient là. Ils étaient heureux, ils étaient là, ils chantaient, il y avait des jeunes, toutes sortes de jeunes. Je vois les événements quand je tourne dans les différentes communautés, dans les différentes synagogues, je pense que la vie prend le dessus. C'est un peu ce que j'ai voulu exprimer dans ce gala que j'ai appelé les Lumières du judaïsme. On en dira quelques mots quand même. Donc la vie prend le dessus et nous avons l'obligation, je le dis ici dans la maison du Fonds social juif unifié qui fait pareil que le consistoire, nous avons l'obligation de faire vivre le judaïsme, de donner à chaque juif ce qu'il attend, quelles que soient ses convictions, quel que soit son engagement religieux ou culturel ou identitaire. Et c'est notre responsabilité, c'est notre rôle, et nous essayons de le faire tous les jours.
Vous avez toujours dans ce discours, le 26 juin, parlé d'espérance et de cette lumière portée par le judaïsme, hein, que le Consistoire de Paris contribue à soutenir. Cette lumière, aujourd'hui, vous dites qu'elle nous vient d'Israël, de par la résilience du peuple israélien.
Alors, quand j'ai dit les lumières du judaïsme, j'ai voulu faire allusion à plusieurs types de lumières, hein. Bien entendu, Israël reste une lumière pour le judaïsme. Et j'ai dit, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, au bout des tunnels du Hamas, il y a la lumière d'Israël. Et je crois que ça symbolise un petit peu tout. Quand on a vu les otages qui arrivent ici, qui recommencent à vivre, quand on se rappelle des rescapés de la Shoah qui ont recommencé à vivre, qui n'ont pas trouvé prétexte dans l'obscurité qu'ils avaient vécu pour s'anéantir, mais au contraire pour revivre, je crois que ça c'est notre force. Et quand j'ai parlé des lumières du judaïsme, j'ai voulu dire le consistoire, au travers de ces synagogues, de ces services, il fait vivre les fondamentaux du judaïsme, il fait vivre la synagogue, le Sefer Torah, la menorah, la kippa, la kashroute, c'est le rôle de la bar mitzvah, le mariage, tous les instants de la vie juive font partie de ces lumières qu'on fait vivre. Pour faire vivre ces lumières du judaïsme, il faut des acteurs. Et j'ai voulu rendre hommage aux présidents de communauté, aux rabbins, aux trésoriers, aux administrateurs, aux bénévoles qui, dans toutes les communautés, permettent justement à cette vie juive, à ces lumières d'être là. Et puis c'était une soirée pour un appel de dons, comme vous l'avez entendu à plusieurs reprises sur cette antenne. Le consistoire, de par justement ses responsabilités et de par aussi l'engagement de la communauté juive, en particulier vers Israël, le consistoire vit des moments plus difficiles au niveau financier. Donc j'ai aussi fait appel aux lumières du judaïsme que sont les porteurs de lumière, que sont les donateurs qui viennent nous aider. Alors c'est un petit peu ce symbole de la lumière qui fait partie d'une volonté de voir l'espérance juive et de se dire on n'est pas anéanti, les antisémites ne nous auront pas, les anti-israéliens ne nous auront pas, on continue à faire vivre nos communautés, à faire vivre nos synagogues, à faire vivre nos lieux juifs. Je le dis souvent, soit on va en Israël et on partage les combats d'Israël, on prend les armes, on se met dans les abris, soit si on est ici, il faut être dans les structures juives, il faut être à la synagogue, il faut être dans ce qui représente Israël en diaspora, c'est-à-dire les lieux où on vit son identité juive. C'est le rôle du consistoire de Paris, notamment en Île-de-France, d'en apporter avec les autres institutions. Je parle du consistoire qui est celle que j'ai la responsabilité de présider. Et bien c'est notre rôle de maintenir ces lumières allumées dans des territoires sensibles comme des banlieues difficiles. Ces lumières allumées, on parlera du Talmud Torah dont on prépare la rentrée dans les lieux éducatifs de la communauté juive. Ces lumières de maintenir des bâtiments de la communauté juive qui reste en bon état pour accueillir tous les événements de la communauté. Donc c'est un peu la vie juive, l'identité juive qu'on continue à promouvoir dans une période où la résilience a une consonance encore plus vive qu'elle l'a été il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
Une question, Joël Mergui, sur cet antisémitisme d'atmosphère qui se répand, qui gangrène une partie de notre société. On va revenir à la question des Talmud Torah, ce que j'avais prévu d'en parler. Les communautés juives d'Île-de-France dont vous avez la charge, elles subissent cette haine anti-juive. Dans la ville de Saint-Maurice, le week-end dernier encore, des mezouzotes ont été arrachées dans un immeuble et puis des voitures ont été incendiées dans le parking. Alors, est-ce que lorsque des actes de cette nature sont perpétrés, commis, vous en êtes vous-même directement informé en votre qualité de président du consistoire de Paris?
Oui, bien sûr, on est...
Comment ça se passe alors?
C'est pas un secret, on a une institution qui est co-présidée, qui est présidée par Alexandre de Rothschild, qui est le service de protection de la communauté juive, bien connu sous le nom de SPCJ, dans lequel participent le consistoire central, le consistoire de Paris, le Fonds social juif unifié, et le CRIF, et nous sommes donc dans une boucle très serrée, régulièrement informés de tout ce qui se passe, et après, on a les relations que nous tissons avec les préfets, pour ma part avec le préfet de police de Paris, et les différentes préfectures de banlieue, donc on est bien entendu informés régulièrement. Mais aujourd'hui, on est parfois plus vite informé par les réseaux sociaux que quand les faits nous arrivent, tellement l'information va vite. Et c'est des fois une difficulté, je le dis à la communauté, des fois l'information va tellement vite qu'elle peut être tronquée et que nous, les responsables de la communauté prennent des fois un temps à réagir. Non pas qu'on n'a pas envie de réagir, c'est qu'on a envie de vérifier. Parce qu'il n'y a rien de pire que de réagir sur une information, et ça s'est arrivé plusieurs fois ces dernières années, sur une information fausse ou qui ne s'avère pas véritablement antisémite, en déclarant tout de suite le caractère antisémite. Bon, là, c'était clair par les vidéos et la personne a été appréhendée.
Là, sur cette affaire de Saint-Maurice, est-ce que vous êtes en lien avec les habitants de cet immeuble
Je n'ai pas été en lien directement avec les habitants de cet immeuble, mais on est en lien, personnellement non, mais on est en lien avec les habitants de l'immeuble et on suit un peu toute la procédure qui va avoir lieu. Je pense que aujourd'hui, quand il se passe des actes antisémites, on a, par l'intermédiaire des différentes associations et institutions que nous représentons, toujours un lien avec les personnes, les victimes, pour pouvoir les accompagner quand elles le souhaitent. Des fois, elles ne souhaitent pas, elles prennent leur disposition toutes seules, mais on a toujours un lien et on ne laisse jamais personne tout seul.
Est-ce que face à cette hostilité dont font l'objet les communautés juives de Paris et d'Île-de-France, hein, puisqu'elles sont sous votre responsabilité, est-ce que le risque, ce n'est pas le repli sur soi, l'éloignement, voire la rupture avec la communauté nationale pour mieux se protéger, pour mieux protéger ses enfants? Et on peut très bien le comprendre.
C'est pas un risque, c'est une réalité. Je crois que c'est une réalité.
Vous qualifiez un repli communautaire?
Je n'aime pas dire un repli communautaire parce que l'ensemble de notre communauté, les responsables communautaires, vous savez, je suis président du consistoire, mais je suis médecin par ailleurs. Donc ma vie, je la partage entre ma responsabilité communautaire et une vie sociale avec des patients qui viennent de tous horizons. Et je pense que c'est le cas de la majorité de des personnes de mon âge ou plus jeunes que moi, des actifs de la communauté, qui sont, de par leur métier, en rapport avec une société. Il n'y a pas de repli dans la vie. Maintenant, effectivement, les enfants sont de plus en plus souvent à l'école juive. Et nous, on parlera du Talmud Torah, vous m'avez dit, mais le Talmud Torah, c'est un lieu fondamental où des enfants qui sont à l'école publique retrouvent un lien avec des enfants de la communauté juive. On voit davantage de membres de la communauté qui étaient éloignés de la communauté, qui se retrouvent dans des restaurants cachers, qui se retrouvent dans des manifestations de la communauté juive, parce qu'il y a un besoin. Je ne vais pas parler de repli, c'est pas une crainte de la société. C'est plutôt une envie de se retrouver avec ses frères et ses sœurs. Je pense que c'est un besoin d'unité, un besoin de solidarité. Je veux dire, il y a eu un incendie à Marseille hier, on a entendu des gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres se solidariser les uns avec les autres parce qu'ils avaient à combattre quelque chose. Ça ne veut pas dire que tous étaient d'accord sur tout dans leur voisinage et autres, mais ils étaient ensemble. Je pense qu'on combat l'antisémitisme, on soutient Israël, donc ça crée des liens supplémentaires entre les membres de la communauté juive. Il faut utiliser ce moment exceptionnel de la communauté pour continuer à cultiver l'identité. C'est ce que le consistoire essaye de faire dans ces moments difficiles.
Une question donc sur les Talmud Torah. Vous parliez de la lumière du judaïsme. Où est-ce que vous percevez des indices de positivité? Est-ce que, par exemple, les inscriptions pour le mois de septembre, à la rentrée de septembre, pour les Talmud Torah sont en hausse? Qu'est-ce qui vous montre que la vitalité du judaïsme est encore très forte dans la communauté?
Alors je viens d'en décrire un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'inscriptions à l'école juive, beaucoup de demandes à l'école juive. Il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent plus à l'école juive. Et c'est évident qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui, pour différentes raisons, ne vont pas à l'école juive. Et c'est fondamental de maintenir, c'est le rôle historique du consistoire d'avoir des Talmud et Torah. Alors il y a moins d'enfants au Talmud Torah qu'il y a 20 ans parce qu'il y a plus d'écoles juives et plus d'enfants qui vont à l'école juive. Mais on a une obligation morale de maintenir un Talmud Torah. Ça, c'est très coûteux pour le consistoire, on est aidé par personne, on est la seule institution, on s'auto-aide, si on peut dire, pour que le Talmud Torah continue. Vous savez, des enfants qui sont parfois 4 ou 5 dans certaines banlieues, on maintient un Talmud Torah pour qu'ils aient cette identité juive. Est-ce qu'il y a une augmentation des inscriptions? C'est notre ambition, parce qu'il y a les enfants de l'école juive, il y a les enfants du Talmud Torah, et il y a beaucoup d'enfants, encore des milliers d'enfants, qui ne sont nulle part. Et je crois que c'est pas possible aujourd'hui de vivre son identité, de vivre dans notre société sans avoir une culture juive. Et je vais vous dire ce que je répète inlassablement. Je dis, soit on vit en Israël, soit on est dans la synagogue. Quand je dis la synagogue, c'est ce qui représente le lieu, la vie juive. On peut ne pas être religieux, être rattaché à la synagogue simplement pour venir pour une manifestation, pour venir. La synagogue, ça peut être un lieu de culture. Mais je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui être absent du judaïsme.
Et quand vous dites ça, vous pensez également aux juifs qui se disent laïcs ou alors...
Oui, mais les juifs qui se disent laïcs, quand ils vont à une conférence laïque sur le judaïsme, ils sont là. Moi, ça m'est égal qu'ils ne soient pas là avec la kippa sur la tête, le tzitzit katan qui mange kasher. Ce qui m'est pas égal, c'est s'ils sont nulle part. On ne peut plus être juif aujourd'hui. Nulle part?
Oui. Pourquoi on ne peut pas être nulle part quand on est né de parents juifs?
Mais parce qu'aujourd'hui, on a un appel, on a un besoin, on est trop peu nombreux dans le monde pour se dire « je suis juif, mais je reste chez moi, je ne veux pas à la synagogue parce que je ne suis pas religieux, je ne vais pas à une conférence parce que ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas militer parce que je n'ai pas le temps ». et je suis juif, non. Je suis juif, je suis solidaire. Aujourd'hui, Israël et la communauté juive vivent un moment difficile. Alors, bien entendu, moi, en tant que président du consistoire, je dis je suis juif, je suis solidaire. Je viens à la synagogue, je mange kasher par solidarité, même si dans ma vie, je ne mange pas kasher parce qu'il faut qu'on maintienne un réseau de kashrout. Mais je peux être juif et venir à une manifestation. Ça sera la Rav Liveldiv et aller à la Rav Liveldiv pour manifester ma solidarité. On ne peut plus être juif en diaspora sans être présent dans les institutions juives. Je le dis comme un appel fondamental. On peut plus aujourd'hui se dire, hein, on regarde la télévision, hein, il a fait une mauvaise déclaration, LFI n'aurait pas dû parler comme ça, le Premier ministre n'aurait pas dû parler comme ça, et rester assis dans sa télévision. Non, on doit être actif. On est juif, on est actif, on est solidaire, on soutient. Et c'est un peu ce que j'ai fait en maintenant la lumière du judaïsme. On doit maintenir la lumière du judaïsme allumée partout. Partout. Et pour maintenir la lumière du judaïsme, on a besoin de ceux qui font la lumière, de ceux des rabbins, des présidents, des présidents d'institutions, des présidents d'associations, mais on a besoin aussi de ceux qui donnent de l'argent, qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie pour qu'on continue à faire vivre effectivement nos valeurs juives au moment où en Israël, nos cousins, nos frères se battent, ils risquent leur vie, ils perdent leur vie pour que la terre d'Israël continue à briller, pour que le peuple juif continue à exister.
Alors, il nous reste 4 minutes et je voudrais avoir votre réaction au discours prononcé par François Bayrou, le Premier ministre, la semaine dernière lors du dîner du CRIF. Il a débuté sa prise de parole en parlant de ses liens personnels avec le judaïsme. Il a fréquenté les cercles d'amitié judéo-chrétienne à Bordeaux lorsqu'il était étudiant et certains de ses enfants ont appris l'hébreu à l'université hébraïque de Jérusalem. Comment vous avez accueilli ces paroles ?
Et moi, j'essaie de voir toujours le positif dans ce que nous avons devant nous. Effectivement, j'étais présent et c'était émouvant. La façon même dont il l'exprimait, et on sentait une émotion, une sincérité dans sa bouche, une sincérité de quelqu'un de croyant, de fondamentalement proche d'un certain nombre de valeurs. Je pense que, effectivement, c'était un beau discours, c'était une belle proximité avec Israël. Il y avait quelque chose d'assez... c'est difficile en 4 minutes, mais quand il a repris les propos de Netanyahou, qui datent de longtemps sur les deux États, c'était assez astucieux de sa part. Donc je crois qu'il y avait un discours très sincère de proximité avec la communauté juive. Je vais dire autre chose quand même, parce qu'on a 2 minutes. Je ne parle pas que du discours, je parle généralement des discours des politiques. Il y a une très grande proximité avec la communauté juive dès qu'on parle de judaïsme. Il y a une très grande proximité avec la communauté juive dès qu'on parle d'antisémitisme. Il y a une très grande proximité, une identité de vue dès qu'on parle de la Shoah. Tout le monde est d'accord. Là où commence à être difficile, c'est quand il faut dire « je soutiens Israël dans son combat ». Ça, c'est difficile de l'entendre, mais on aimerait l'entendre de toute la classe sociétale, identitaire, politique en France, parce que ça, c'est difficile. On peut ne pas être d'accord avec la politique de Benjamin Netanyahou, mais on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas se rendre compte qu'Israël mène un combat pour Israël, pour le peuple juif et pour l'humanité. On ne peut pas avoir de double discours sur ce sujet-là. On a interdit Israël aux Bourgers. On peut pas. C'est quand même très compliqué à comprendre. On peut pas. Aujourd'hui, on a besoin de sentir pour que l'antisémitisme s'arrête. Il faut que la proximité avec les combats d'Israël soit plus visible. Elle n'est pas assez.
Une toute dernière question, Joël Mergui, pour conclure et pour aller dans le sens de ce que vous nous dites. Il y a un espoir de paix qui semble se dessiner au Proche-Orient avec le plan de Donald Trump pour élargir les accords d'Abraham. Un accord de cessez-le-feu qui est encore en discussion en ce moment entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'on peut espérer que si la guerre se termine au Proche-Orient avec ce cessez-le-feu, en tout cas entre Israël et le Hamas à Gaza, est-ce qu'on peut espérer qu'en Europe, en France, on va assister à une baisse significative de l'antisémitisme ? Est-ce que les deux sont liés selon vous ? Il y aura des conséquences
alors,
rapides
alors c'est très, très court, 2 minutes, mais il y aura une baisse nécessairement de l'antisémitisme, mais il n'y aura pas une baisse de la volonté de l'islamisme de continuer à se développer contre l'Europe. Au moment du Bataclan de 14 juillet, il n'y avait pas de conflit, que je me souvienne, en Israël. Et il y a eu quand même le Bataclan de 14 juillet. C'est ce que l'Europe oublie.
Qui ciblait pas la communauté juive en particulier.
Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que l'Europe ne doit pas oublier que si la cible première, c'est aujourd'hui les Juifs, la cible également, c'est l'ensemble des démocraties, l'ensemble du monde libre. Donc s'il y a la paix, ça peut donner un peu de répit à la communauté juive, parce qu'il n'y aura plus le prétexte de la guerre, le prétexte de Gaza, le prétexte des différents prétextes qu'il y a, mais l'islamisme continuera à se développer. J'espère qu'avec ce qui s'est passé en Iran, et là, l'arrêt temporaire, c'est difficile d'analyser, de la menace nucléaire, et les coups qui ont été portés au Hezbollah, au Hamas, et donc à l'islamisme, j'espère que ça aura une répercussion et sur la communauté juive, et de façon générale sur les communautés, différentes communautés nationales des pays démocratiques.
Merci beaucoup Joël Mergui, à très bientôt sur cette antenne. Bonnes vacances, hein,
merci.
Là, rendez-vous au mois de septembre.
Voilà, merci beaucoup.